Et donc, ben, sans transition, comme vous l'avez très bien dit, on va enchaîner avec des personnes qui travaillent en coopération, en coordination. On va peut-être me préciser quel mot exact indiquer avec la police scientifique. Il s'agit des fameux nettoyeurs, mais il y a peut-être un autre nom, on verra aussi. Et là, on aura l'occasion, ben, dans une première partie, d'avoir une présentation d'un extrait des outils et des tenues qui sont utilisées par ces nettoyeurs. Et ensuite, en fait, on fera un entretien pour en savoir un peu plus sur ce métier. Et il y aura aussi l'occasion pour vous, évidemment, de poser des questions sur la fin. Donc là, on attend évidemment la petite transition pour les images. J'en profite aussi pour vous rappeler, ben voilà, par rapport aux afterworks curieux, il y aura une session de minimum 6 ou 7 prochaines sessions que vous pourrez retrouver sur le site de Récréascience, sur la page Facebook Récréascience. N'hésitez pas à la suivre également pour voir les dernières activités. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de la Girafe qui nous accueille ce soir, qui propose aussi de nombreux ateliers tout au long de l'année et qui sont ouverts à tous, pas seulement qu'aux résidents. N'importe qui peut venir pour participer à divers ateliers. Merci encore une fois à Bob FM, bien évidemment, de nous enregistrer ce podcast qui sera retrouvé sur le www.bobfm.org. Et merci aussi également au populaire du centre qui est présent. J'ai pas eu l'occasion de vous mentionner aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y aura un petit papier très prochainement, voilà, sur les afterworks curieux et surtout sur celui de la police scientifique ce soir. Bonjour Jocelyn.
Bonjour à tous.
Je vais peut-être te laisser... bonjour Sarah aussi également, on va peut-être vous laisser tout d'abord présenter très succinctement le métier, parce qu'après on aura l'occasion d'en discuter plus longtemps après, et un petit peu finalement quels sont les principaux, je crois, outils ou matériels que vous utilisez sur place. Voilà, je vous laisse la parole.
Alors bonsoir à tous. Je risque d'être beaucoup moins professionnel en communication que ces agents de la police. Je vous présente Sarah, dernier agent recruté au sein de CSI Nettoyage. Donc, nous sommes ici ce soir pour vous présenter notre métier. Un métier à part entière. Un métier où je suis là pour vous enlever toutes ces images du simple nettoyeur avec sa serpillière. Vraiment vous faire connaître tous les aspects de notre métier. Donc, nous agissons sur toute la France, tout ce qui est suicide, homicide, mort violente et logement insalubre, logement Diogène. Qu'est-ce que le Diogène ?
C'était pas quelqu'un dans la Grèce antique ?
C'est possible, parfois.
Moi,
qu'est-ce que le Diogène ? Accumulation compulsive de déchets. C'est-à-dire que certains logements sont remplis de déchets, d'ordures, de vêtements, de livres, jusqu'au plafond. Et parfois, le corps se retrouve à l'intérieur de ce logement. Donc, notre métier, nous, c'est de nettoyer toute trace de suicide, de mort violente, de projection, de traces de sang, et d'effacer toutes les traces d'un drame. Quoi qu'il en soit, nous intervenons tout le temps après le personnel de la police, quand les scellés sont retirés du logement. Tant que l'enquête est en cours, on n'intervient pas. Donc systématiquement, lors d'un appel d'une famille, est-ce que les scellés ont été levés, oui ou non ? Voilà. Mon parcours personnel, donc je suis Jocelyn, le dirigeant de la société CSI Nettoyage, ancien marin-pompier de Marseille, marine nationale. J'ai ensuite progressé vers le funéraire, en tant que chef d'entreprise funéraire, et ensuite sur le nettoyage après décès.
Alors, je me permets une petite question. Il y a une référence pop culture avec l'acronyme CSI, parce que c'est le nom américain pour les experts. C'est pour ça que je me posais la question si c'était fait exprès ou pas.
Non, pas du tout. C'est juste le nom commercial, nom très court, très simple. Voilà, aucun lien avec les CSI américains. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai créé cette société suite à la demande. À de la demande, notamment en me rendant dans les commissariats pour des réquisitions lors d'un retrait de corps à domicile où les personnes cherchaient une entreprise pour nettoyer un suicide par arme à feu, nettoyer malheureusement le drame du mari, du fils. Voilà. Donc là, j'ai eu l'idée de créer cette société, de recruter du personnel qui n'est pas toujours évident. Beaucoup d'inconvénients à exercer ce métier. L'inconvénient, c'est la disponibilité. Viens, Sarah, viens. La disponibilité. Moi, personnellement, je n'ai pas de vie. C'est jour, nuit, pas de vacances, il n'y a pas d'heure. Voilà. Et toute la France, surtout, beaucoup de kilomètres. Nous faisons entre 10 et 15 000 km par mois, par agent. Voilà, c'est un ordre d'idée. En plus du travail de nettoyage. Donc nos véhicules prennent beaucoup de kilomètres.
Qu'est-ce que vous avez à nous présenter du coup au niveau du matériel que vous utilisez dans le quotidien du coup ?
Alors, matériel, j'ai pas grand chose à part un masque, une combinaison et des gants. Rien de compliqué. Ensuite, c'est très technique, tout ce qui est désinfection. Ce sont des produits très, très élaborés par les laboratoires Oxypharm, pour ceux qui connaissent, avec qui nous travaillons. Et ensuite, ce sont nos véhicules. J'ai quelques photos de véhicules avec lesquels nous travaillons, si ça vous intéresse.
Ouais. Peut-être les faire, alors si vous pouvez me les donner, comme ça je les fais tourner au... Ah non, vous allez d'abord en PowerPoint, effectivement. Alors je me déplace, que je suis au milieu de tout.
T'as mis ton empreinte ?
Alors les empreintes reviennent, parce que normalement on pouvait activer l'ordinateur avec empreinte. Mais il me semble que l'ordi n'est pas complètement fiable pour l'instant. Je plaisante, bien évidemment.
Alors...
Voilà. Voilà, pour décrire, pour ceux qui nous écoutent, il y avait un dossier suicide. Voilà, on va être évité ce soir.
Pour les plus gourmands, pour les plus gourmands. Voilà. Le type de véhicule avec lesquels nous intervenons sur tout ce qui est suicide et homicide. Voilà, on part vraiment sur des cas très simples. Véhicule propre où chaque matériel a sa place. Je suis un ancien pompier, militaire, assez carré, et j'aime quand chaque chose est à sa place. On n'a pas le temps de faire trois fois le tour du camion pour travailler. Voilà, c'est l'image que l'on souhaite apporter aussi aux familles. La discrétion également, ça c'est un véhicule qui est équipé avec des rampes de gyrophares, parce que nous intervenons aussi sur des lieux publics, mais on a des véhicules aussi simples par rapport au voisinage, notamment aussi pour les syndromes de Diogène, où souvent les familles se sentent gênées, et gênées de notre intervention, ce qui est aussi normal. Les autres difficultés de notre métier, c'est le lien avec la famille. C'est l'approche de la famille, c'est le deuil. Le deuil se traduit par de l'énervement, par certaines personnes. Nous sommes un punching ball. On fait face à la mort, vraiment à la tristesse, bien sûr, aux larmes, aux cris, mais à la colère de certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi papa s'est suicidé, pourquoi... Nous sommes là pour expliquer notre travail, faire notre travail en toute discrétion et partir, simplement, effacer toutes les traces. C'est vraiment une aide pour les familles. Ensuite, au niveau des difficultés, tiens Sarah, à toi la parole.
Oui, aussi par rapport à la discrétion, oui voilà, ça va mieux. Par rapport à la discrétion, on intervient parfois de nuit également, surtout dans les bâtiments style HLM, enfin qui sont sur plusieurs étages pour venir à la discrétion envers le voisinage. Donc on intervient, comme il vous a dit tout à l'heure, sur toute la France et ça peut être pas que sur du suicide et pas que pour les gens, par rapport aux gendarmeries.
Et alors, on parle beaucoup de choses forcément négatives, qui sont un peu dures et tout, mais j'imagine que si vous faites ce métier-là, c'est aussi parce que ça vous apporte une satisfaction. Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans ce que vous faites ? Enfin, c'est un peu maladroit de le dire comme ça, évidemment, mais j'imagine que voilà, y a des choses quand même qui vous épanouissent dans cette profession.
Bon, on n'a pas cette routine où, justement, on se lève le matin, de telle heure à telle heure, c'est tel programme. Ensuite, il y a la pause. Nous, c'est vrai qu'on part... n'importe quand, n'importe quel jour.
Le côté urgence aussi peut-être un petit peu, le montée d'adrénaline un peu peut-être aussi, comme les collègues, enfin les collaborateurs de la police scientifique. Et en fait, voilà, la question qu'on se pose tous aussi évidemment, c'est comment on se prépare à ça. Vous l'avez dit un peu en introduction, il n'y a pas forcément, enfin entre guillemets, de formation spécifique, ou du moins c'est peut-être des... Enfin, il y en a peut-être, je pense, mais c'est peut-être un peu rentré dans des détails compliqués. Mais comment on se prépare à faire ce métier en fait?
Alors, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de diplôme. Des gens se présentaient à moi, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'en ai vu passer. Mais arrivé sur le terrain, ça n'a rien à voir. Sarah, elle fait 1m20 les bras levés. Mais croyez-moi que la cervelle, elle la ramasse. Des grands gaillards d'1m80, c'est plus compliqué. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment sur place, sur le tas, où on voit. Mais aussi un suivi avec les agents. Parce que sur le coup, ça va. La nuit, ça travaille. Un mois après, deux mois après, c'est arrivé avec un de nos agents récemment. Le changement de comportement au travail avec la famille, on le voit. Donc moi, personnellement, c'est le sport. Sarah aussi. J'ai des agents, ça va être des passions, des hobbies, enfin plein de choses. Mais notre métier, ce n'est pas que nettoyer aussi. C'est assister le personnel de la police et gendarmerie dans diverses missions. Nous avons été récemment réquisitionnés pour retirer un corps, je dis bien retirer un corps, qui était dans un logement insalubre rempli de déchets. La police scientifique a donné notre arrivée. Les pompes funèbres étaient en train de vomir devant le logement. Oui, et les pompiers ne voulaient pas rentrer. Et le médecin du SAMU ne voulait pas rentrer pour constater le décès. Donc nous sommes rentrés pour retirer le corps. Donc les films d'horreur, la rigolade à côté, je vous assure, où il faut rentrer avec la lampe torche et sortir le corps en décomposition. C'est notre métier aussi. Voilà.
Et les principaux cas, alors je crois que vous l'avez un peu dit au début, les principaux cas rencontrés, ça va être plus des drames personnels plutôt que des crimes, enfin, j'imagine.
Suicide.
Ouais.
Principalement du suicide. Suicide, mort naturelle et Diogène.
Ok.
Voilà.
Et justement, voilà, là on parle. Alors le suicide n'est pas une mort naturelle, évidemment, mais est-ce que quand voilà, vous arrivez dans des appartements où il y a souvent des personnes isolées qui sont malheureusement oubliées, et voilà, on découvre au bout de 2 mois malheureusement qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans le lieu, est-ce que ça laisse les mêmes dégâts en fait qu'une personne de mort naturelle, que quelqu'un qui s'est suicidé, et selon ben, les outils dont il s'est servi, ça peut parfois faire des projections de sang, etc., comme on l'a vu. Bon, une mort naturelle, ce n'est pas forcément le cas, mais voilà, est-ce qu'il y a des différences à constater ?
La chose que moi je remarque beaucoup dans ce métier, c'est l'ignorance des gens, des voisins, de la famille. Les gens sont en détresse. Il y a quand même un gros souci social. Des gens qui restent 6 mois chez eux, enfermés dans la merde, hein, on appelle un chat un chat, et personne ne s'inquiète jusqu'au décès. Et là, la famille arrive. Il était où, tonton ? Mais tonton, ça fait 6 mois que vous n'avez pas pris de nouvelles, 6 mois qu'il vit dans la merde, et vous le laissez là. Et malheureusement, il y a une grande, grande détresse. Il y a plein de gens aujourd'hui, dans Limoges, plein de maisons qui attendent notre arrivée, justement, des corps qui attendent sans vie. Et donc oui, il y a un gros souci là-dessus. Mais oui, la tristesse, c'est ça, c'est ces gens seuls. Certaines personnes m'appellent aussi directement de leur plein gré. Voilà, j'ai un souci chez moi, venez m'aider. Et là, c'est tout à leur honneur.
Sur les syndromes de Diogène, notamment, j'imagine.
Diogène, bien sûr. Mais oui.
Et alors justement, on parlait de... Alors je ne répéterai pas, je dirais caca, voilà, pour être plus poli pour la radio. Mais on peut le dire en vrai, mais voilà, c'est que c'est moi, je suis un peu prude. Comment on se débarrasse de l'odeur ? Parce que là, on a beaucoup parlé des corps, etc. Mais du coup, enfin, j'imagine que l'odeur de la mort, c'est assez particulier quand même, sans vouloir être macabre. Mais est-ce que voilà, il y a des techniques après pour voilà, rendre un lieu habitable sans, malheureusement, ces désagréments ?
Alors, quoi qu'il en soit, il faut un bon nettoyage. Chercher les odeurs, chercher les fluides corporels qui vont partout, partout, partout. Certaines sociétés cachent les odeurs. Nous, on va chercher en profondeur. Si on ne fait pas ce travail-là, c'est comme construire une maison neuve sur des fondations pourries, ça ne sert à rien. Un revêtement était un tel que celui-ci. Là, le lino, patron, si je me trompe, l'espèce de lino ici. Si un corps se décompose, reste à peu près 1 mois ici, les fluides passent au travers. Nous avons eu le cas récemment dans un département voisin où les fluides étaient passés au niveau inférieur. Alors, quand le voisin appelle, il dit voilà, il y a des traces d'eau au plafond, c'est pas de l'eau. Ça arrive.
Miam, miam.
Donc, à nous d'aller chercher en profondeur les fluides. Si vous laissez ça comme ça, un coup de serpillière, un coup de désodorisant et vous repartez, dans 6 mois, les gens appellent, il y a un souci. Les asticots prolifèrent partout. Et oui, dans les armoires, derrière les plaintes, beaucoup. Il faut vraiment chercher. Une fois que tout est bien retiré, ensuite on désinfecte. On a un protocole de désinfection à respecter, qui va avec les normes, les normes françaises à respecter également. Par rapport à ce que vous venez de me dire, ce sujet-là, on ne cherche pas à critiquer d'autres sociétés, mais on m'a appelé récemment pour dire voilà, on a appelé des confrères à vous qui sont venus en scooter, qui ont jeté la moquette pleine de sang dans les poubelles publiques. Non. Il y a des normes à respecter, que ce soit dans tous les métiers. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi.
Pour en revenir aux odeurs, un syndrome de Diogène peut sentir plus fort qu'un corps qui est en train qui est en décomposition.
Et du coup, le fait d'être, alors c'est un peu presque métaphysique comme question, mais le fait d'être confronté à la mort, voilà, régulièrement, parce que c'est un peu ça aussi. Est-ce que, voilà, vous, au niveau personnel, ça vous questionne sur, l'existence, à force de voir aussi malheureusement ces drames familiaux, est-ce que c'est des choses qui, du coup, vous impactent en fait après personnellement. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail. Voilà, les croyances regardent tout le monde.
C'est des choses qui peuvent nous impacter dans le sens où je suis aussi mère de famille. Quand on intervient sur des drames où ce sont des enfants qui ont été tués, c'est sûr que après, le soir, on a beau faire du sport, écouter de la musique ou s'évader l'esprit comme on veut, ça reste.
D'accord.
Ça reste.
Et du coup, voilà, on entendait les conseils un petit peu aussi, c'est pour pouvoir bien dissocier le travail et la vie personnelle, c'est de se trouver forcément une activité.
Trouver une activité et
c'est indispensable,
parler.
D'accord. Ok. Donc là, voilà, pour ceux qui nous écoutent ce soir, on a eu l'occasion de découvrir un petit peu via notre vidéoprojecteur des exemples de syndrome de Diogène, si je ne me trompe pas. Donc pour rappel, il s'agit d'une maladie, d'une pathologie où des personnes ne jettent absolument rien, que ce soit des objets du quotidien utiles ou même des déchets.
Ce sont des photos réelles que nous prenons.
Voilà, il n'y a pas de lieu
ni de nom. Voilà, ce sont des accumulations compulsives. Nous avons fait récemment une maison. On a évacué 180 mètres cubes de déchets. Notre idée, une benne de déchetterie, ça fait 30 mètres cubes. 6 bennes de 30 mètres cubes. Il ne faut pas les juger, ces gens-là, c'est une maladie. Voilà, on est là pour les aider. Mais c'est vrai que c'est une maladie reconnue. Vous voyez, ils boivent une bière, ils la jettent, ils tripassent ses papiers, ils vont... Bon, malheureusement, ils font leurs besoins dans toutes les pièces de la maison. Eh oui, eh oui. Alors certains, c'est une maladie, certains, ils recommencent. Il n'y a pas d'accompagnement. Aujourd'hui en France, pour moi, il n'y a pas assez d'accompagnement, que ce soit tutelle, curatelle. Bon, c'est un autre sujet, mais il y a un manque d'accompagnement pour ces gens-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour les aider.
Alors attendez, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse... Alors c'est Chamy de la radio Bob FM qui va apporter le précieux Graal. Qui parle.
J'étais une question qui m'est venue, mais en moyenne...
C'est que le micro grésille un peu, mais voilà, c'est bon.
C'est moi qui... En moyenne, votre intervention dure combien de temps? Enfin, j'imagine que ça dépend des conditions de l'événement, ça dépend, mais en moyenne, combien de temps vous restez sur un même lieu?
Un Diogène?
Par exemple, oui, par exemple.
Minimum 13 heures. Ah oui. Il faut compter 13 heures. Le plus long, c'est l'évacuation. Une difficulté du métier, c'est l'endurance. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour évacuer, tout à la main, tout ranger, tout trier, les effets personnels, et ensuite nettoyer, désinfecter. 13 heures environ, 13-15 heures, ça peut jusqu'à une semaine, les 180 mètres cubes, là c'est une semaine. La journée sur le chantier, la nuit au travail aussi à Paris pour les suicides. Voilà, c'était assez long. Oui, sur une journée, oui. Donc l'appartement était rempli.
Vous êtes combien?
Une dizaine, sur toute la France. Nous sommes situés géographiquement au centre de la France, donc Creuse, Guéret. On peut les servir très rapidement en cas de réquisition judiciaire ou un appel assez urgent.
Alors, sur l'intervention, ouais.
En moyenne, 2. On peut monter jusqu'à 6, vraiment cas extrême, mais 2. Voilà. 2, 3, moyenne, c'est 2. Voilà.
Est-ce que vous triez les déchets?
Alors, tout ce qui est effet personnel, papier, documents importants, objets de valeur, tout est pris en photo, remis à la famille. Voilà. Ensuite, tout ce qui est déchets, nous avons un contrat avec Suez et d'autres organismes. On appelle ça les DIB, tout ce qui est déchets vrac. Voilà. Tout ce qui est vrac.
DIB, c'est quoi l'acronyme de déchets
Je dirais une bêtise.
Déchets industriels banal. Ah, d'accord, ok.
Peut-être. Voilà, alors attendez. Voilà, tout ce qui est déchets diogènes, donc là, ça, c'est en vrac. Chez les personnes avec qui nous avons des contrats. En revanche, ce qui est déchets sanguins, la goutte de sang, les fluides corporels, etc., c'est des dasseries. Vous connaissez ceux qui bossent en milieu hospitalier. Le SAMU, tout ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous, des infirmières? Voilà.
Ah oui.
Dasseries sont des déchets dans des cartons, dans des fûts de couleur jaune. Ils sont stockés dans une pièce spécifique. Ils sont collectés, suivis, incinérés. C'est des normes à respecter. Certains ne le font pas, c'est obligatoire. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Madame, juste devant, le micro arrive. Alors attendez, le micro va arriver. Oui. Voilà.
J'ai entendu, mademoiselle, que vous disiez que vous viviez des choses difficiles. Alors j'ai bien entendu qu'il y avait des exutoires, c'est-à-dire le sport et tout ça. Mais est-ce que vous êtes accompagnée? Est-ce que vous avez la possibilité de parler à un moment? Alors certes, vous pouvez échanger avec vos collègues, est-ce qu'il y a des temps d'écoute qui sont prévus avec des spécialistes? Parce que je pense que vous devez vivre des choses difficiles.
Ah oui, moi je ne vous le cache pas, je vais voir un spécialiste aussi, pas régulièrement, mais parfois on a besoin d'évacuer autre que simplement la famille ou l'entourage ou les amis et...
Oui, d'accord.
Après, c'est vrai que même en parlant avec les autres employés pour dire, moi, il s'est passé ça, j'ai mal dormi, parce qu'il y a des choses, oui, qui vont nous travailler, surtout, moi, personnellement, voilà, c'est dès qu'il y a une intervention avec des enfants, c'est celle qui... Mais après, vu que nous sommes plusieurs employés, c'est vrai qu'on se répartit selon le motif, les autres prennent le rôle et quoi.
D'accord, merci.
À l'écran, donc c'est une des moins choquantes, c'est un corps en décomposition, enfin, ce qu'il en reste. Voilà. Et là, c'est passé au niveau inférieur. Vous voyez, c'est du lino. Si on ne va pas chercher les traces, non, c'est passé au niveau inférieur qui était un logement technique. Et voilà.
Voilà. Au niveau des Diogène, c'est ça ? Oui. Globalement, c'est quand même des proches, non, qui vous appellent pour intervenir. Et dans ces cas-là, est-ce que la personne coopère ? Enfin, comment elle réagit? Alors, si elle vous voit débarquer ?
C'est une très bonne question. Aussi, une de nos missions qui n'est pas toujours agréable, c'est malheureusement, nous sommes souvent là dans les cas d'expulsion. On assiste à l'expulsion, les forces de l'ordre qui font leur métier, ils viennent avec les ambulances, les internements, tout ce qui vont avec. On assiste à ça aussi pour ensuite intervenir. Les mairies des grandes communes nous recrutent pour évacuer ces logements avec un arrêté préfectoral, pour nettoyer. Les proches, les tutelles, les curatelles, les bailleurs, organismes sociaux, bien sûr. Voilà.
Et ouais. Vas-y. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ?
Si la personne est encore là et que vous venez, est-ce qu'elle est d'accord ou pas ? Enfin, je veux dire, il y en a qui sont malades, mais il y en a qui ne reconnaissent peut-être pas et qui ne veulent pas vous laisser rentrer, par exemple.
Il y en a qui nous accueillent d'elles-mêmes, qui nous demandent d'intervenir d'elles-mêmes. Il y en a, ce sont des proches, bon, avec un petit peu de pédagogie, on y arrive. Il y a de l'approche aussi à faire, c'est comme le deuil. Il y a une approche à faire avec la personne, expliquer notre démarche. On ne vient pas là pour les voler, ni pour les détruire, on vient là pour les aider. S'ils ne sont pas d'accord, on repart, tout simplement. On ne force personne.
Si certains organismes se fichent un petit peu de ce que certaines personnes peuvent aussi vivre, dans le sens où moi, avant de rentrer donc pour CSI, je me suis justement occupée de mon voisin qui avait un syndrome de Diogène. Et bah, c'est vrai que ça a été des mois et des mois de préparation pour lui trouver un établissement en attendant pour qu'il puisse récupérer son logement, de lui faire accepter, entre guillemets, qu'il... Voilà, après, c'est toute une relation de confiance qui doit se mettre en place. Le jour de l'intervention, eh ben, ce qui peut être prêt, mon voisin, je peux lui dire bah, demain, voilà, ils vont intervenir. Il va me dire oui, mais le jour même, il va pas ouvrir la porte, quoi. Donc, c'est parfois, enfin, moi, ça a été des mois et des mois de travail avec lui.
Y a-t-il d'autres questions ? Ah oui, monsieur, juste là.
Ouais, alors après, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, parce que je vous avais pas dit depuis combien de temps vous avez lancé votre société, mais c'était quelle est la moyenne d'âge des collaborateurs et savoir si, combien de temps on fait ce métier. Est-ce qu'au bout de 10 ans, bah, ça commence à être costaud, ou parce qu'on parle d'étapes, de faire des séances pour justement pouvoir parler, mais arrive un moment, peut-être qu'arrive un moment, peut-être 10 ans c'est bien, 15 ans, enfin, je ne sais pas.
Je répondrai à votre question dans 10 ans, on en reparlera. Trop jeune, j'ai essayé de recruter des jeunes. Mathieu avait une vingtaine d'années. Trop jeune, c'est pas bon. Trop jeune, ça marque trop. Nous, on l'a vu, le changement de comportement en un mois, on l'a dit qu'il fallait arrêter là. Il fallait arrêter les dégâts. Trop ancien, c'est pas bon non plus, j'ai rien contre les anciens, mais au niveau de physiquement, par rapport au Diogène, c'est très très physique. Les machines à laver, les frigos, les déchets, les sacs très lourds. Juste au milieu de la trentaine. L'âge moyen, c'est 25-30 ans. Voilà.
Merci, qui vont se présenter au niveau de l'entreprise. Il y en a beaucoup, c'est « je suis capable, je suis capable ». Ils ont beau avoir 30, 40 ans, 50 ans, enfin peu importe leur tranche d'âge, arriver devant la porte, ils sont incapables de mettre un pied dans le logement, mais que ce soit pour un décès ou également un Diogène.
Ouais, c'est intéressant, du coup, c'est-à-dire que ce n'est pas les cas classiques comme dans les autres entreprises où il y a un entretien d'embauche classique, non. Et puis voilà. Et vous êtes obligé de faire des sessions de test, en fait. Comment ça, alors, se jauge ?
Chez moi, il y a un principe, il n'y a pas de patron, même si c'est mon rôle, on est une équipe, avant tout. Principe d'équipe, être très convivial. J'avais un club de sport à l'époque, où esprit familial. Voilà, il n'y a pas de patron de toi, tu me fais ci, tu me fais ça. On est une équipe. Mes gars avec qui je travaille, sur place, on arrive, on ne se parle même pas, on sait ce qu'il y a à faire. Chacun fait son travail. Il y a un lien.
Mais ce que je voulais dire, moi, c'est avant, en amont. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à repérer, entre guillemets, instinctivement, lors des entretiens, des gens que vous voyez, cette personne-là, c'est potentiel, oui, non. L'autre, non. C'est non. Seulement.
En... Déjà, ceux qui parlent trop, je n'en veux pas.
Mince, bon ben je suis recalé alors. Non, tant non. Pis pour moi.
Non. Non, c'est pas ça. C'est surtout, voilà, il y a un secret professionnel comme beaucoup de métiers. Vous voyez, je vous montre quelques photos. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse. Il y en a des gens qui parlent trop. J'ai eu le cas. Quelqu'un qui le soir partait avec ma tenue de travail CSI dans les bars. Il vient par là. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tel endroit. Non, on se tait. On se tait. Là, pour vous, j'aime reporter quelques photos. Dès qu'on quitte l'uniforme, il n'y a plus de CSI. Je nettoie, je suis agent de nettoyage, tout simplement. J'ai souvent la question de est-ce qu'il reste des organes, des membres ?
Ah oui.
Ben oui. Alors, si les pompes funèbres font bien leur travail, les gros morceaux, ils les remettent avec le corps. Mais souvent, on retrouve des yeux, des dents, le nez. J'ai quelques photos, mais on ne va pas les sortir. Il y a des enfants. Le cerveau. Alors, moi, je trouve ça aussi inadmissible, ce côté-là, où j'ai eu le cas récemment. Un jeune de 23 ans se tire un coup de fusil, malheureusement. Le cerveau était posé à côté sur l'oreiller. Les pompes funèbres ont ramassé le corps, sont partis. On laissait le cerveau avec la famille. Non, on ne fait pas ça. Petit piqueur de rappel, un petit coup de téléphone, non. Enlever au moins la famille qui rentre entre le temps que nous on intervienne. Non, il y a un effort à faire. On retire quand même les morceaux. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments à regarder ou je peux poser mon ultime question de conclusion peut-être, parce que je ne sais pas si vous avez d'autres choses à montrer au public ou des remarques.
Et vous des questions.
Ou d'ailleurs, oui, voilà, si vous avez d'autres questions, juste devant. J'arrive. Le micro arrive, attendez, ça arrive. On en a une autre là-bas, j'ai repéré après.
Est-ce que vous êtes mandaté ou assermenté par l'État ou non. Ça se passe comment à ce niveau-là? Vous êtes complètement privé?
Nous sommes entièrement privés. Nous intervenons pour les particuliers, les professionnels, sur réquisition judiciaire, comme une entreprise privée, classique. Voilà.
Alors, une autre question juste là.
Je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens de... qui avait le syndrome
de Diogène. Oui.
Et que vous avez accompagné, voilà, et qui ont réussi à se soigner et à devenir des gens.
J'ai eu la très agréable surprise, ce fameux Michel, tu te souviens. Oui, ce monsieur chez qui je suis intervenu, c'était très très sale. La benne de 30 mètres cubes était pleine, il vivait vraiment dans le caca. Une grosse tristesse, et je l'ai revu combien de temps après? Un an? À peine un an. Oui. Et je l'ai revu le mois dernier. Donc je suis intervenu cet été, on l'a revu il y a un mois, et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir avec des petits meubles propres, rangés. Bien, enfin super, ça fait plaisir, oui. De savoir qu'on a...
Alors, juste le micro.
Oui, dans le micro.
Merci. À savoir aussi que cette personne, donc du coup, a quitté le logement le temps de l'intervention, mais du coup, après, il y avait des travaux... a effectué dans le logement, cette personne a été placée en foyer et maintenant elle est suivie. Elle est suivie, il y a un infirmier qui passe régulièrement, il y a la DMR qui passe aussi 3 fois par semaine. On ne l'a pas relâchée dans la nature non plus. Il y a un suivi derrière.
Y a-t-il d'autres questions, interrogations, remarques, dépôts de candidature peut-être, je ne sais pas. Qui sait,
et bien différencié, nous ne sommes pas du tout de la police, nous passons juste après. Vraiment, grosse différence à avoir. Si ça nous arrive parfois, nous ne sommes pas enquêteurs. Pas du tout, chacun son métier, loin de là. Mais il se peut, parfois encore récemment, sur un coup de fusil, où nous passons souvent aux gendarmeries, à la police qui nous a plus ou moins conseillé, dire voilà, le travail est bien fait, vous pouvez retourner, faire retourner la famille dans les lieux. Vous avez vu l'impact de balles? Comment ça l'impact? Il y en avait 3. Ça arrive. Et ça ne relance pas forcément l'enquête. Mais peut-être que la personne a essayé de tirer un coup dans le fusil dans l'armoire avant de se tirer une balle. Ça arrive. Mais des fois, on apporte des nouveaux éléments dans notre métier. Peut-être que certains enquêteurs arrivent, bon, c'est un suicide, on s'en va. Nous, on vient, on constate des choses, on rapporte aussi. On est là aussi pour ça. Constater des éléments importants, des objets personnels de valeur, on prend tout en photo, on rend compte. Quoi qu'il en soit, on rend compte. Voilà.
Si je peux rajouter, c'est vrai qu'au niveau de la prise de photos, c'est un élément qui est très très important, que ce soit un Diogène ou nettoyage d'un décès, dans le sens aussi où certaines familles vont nous dire, ben, tout est sur attestation, hein, vont nous dire d'évacuer tout ce qu'il y a dans le logement, mais 6, 7 mois, 8 mois après, vont demander où est-ce qu'on a mis tel papier ou tel document, donc c'est pour ça que tout est pris en photo à chaque fois, pour chaque intervention, quoi. Avant et après l'intervention.
Et alors, pour conclure, je faisais exprès d'utiliser le terme nettoyeur à chaque fois. Alors, est-ce que c'est un mot que vous utilisez, vous, dans le métier, du coup, ou vous avez un nom plus académique, on va dire, plus formel?
Agent de nettoyage officiellement, cleaner pour le fun.
Cleaner, voilà. À l'américaine, évidemment. Et justement, voilà, dans la culture cinématographique, pop culture, le nettoyeur, c'est à l'inverse, plutôt quelqu'un qui est engagé pour liquider quelqu'un. Vous, votre métier, ça consiste plutôt à faire disparaître des corps inanimés déjà, et évidemment de ne pas faire de crime en amont. Mais est-ce que vous avez, du coup, votre propre définition du nettoyeur, et est-ce que vous avez une référence, justement, cinématographique en lien plus de plus près ou plus loin? Il y a un petit speech, je le préparais dessus, bien évidemment.
Alors justement, par rapport au film, le film Cleaner, certains connaissent peut-être, qui, j'ai noté la date, sorti en 2008 avec Samuel L. Jackson, qui est très connu. Il y a une série aussi très rigolote qui associe un peu les deux, le crime et le métier de nettoyeur. Bon, pas très honnête, mais Spotless, la série Spotless, je l'ai vue, c'est sympa, c'est rigolo, je vous la conseille. Ce soir, hein, allez chercher. Voilà. Sinon, pour notre question,
Pas de définition du nettoyeur finalement, si on a une, hein, après c'est pas obligé. Mais...
Nous sommes agents de nettoyage spécifiques.
Ouais, d'accord.
Je ne suis pas femme de ménage. Je n'ai rien contre, hein, attention. Mais chacun son métier. On m'appelle des fois pour passer la serpillière dans un logement X ou Y. Non, c'est un peu plus poussé.
Voilà. Et ce sera le mot de la conclusion. Sauf une dernière. Non, c'est bon. Non, il n'y a plus de questions. Eh bien voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et juste avant de vous laisser repartir pour regarder Spotless, je vous rappelle que le prochain Afterwork aura lieu le 20 février, donc c'est un jeudi, je ne sais plus si c'est le 3e ou le 2e ou le 4e, peu importe, les agendas électroniques sont là pour nous aider. Donc 20 février, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois sur Récréascience pour découvrir la thématique, je vais laisser un peu de suspense évidemment quand même. Ça se passera toujours à la Girafe, toujours à la même heure à partir de 18h30. Merci encore à Bob FM pour la captation, merci à la Girafe pour l'accueil, merci au Populaire du Centre qui est passé. C'est aussi pour pouvoir rapporter cet événement. Il y aura peut-être vos petites têtes sur le journal demain. Et puis merci à l'homme en bleu également, que je représente moi-même, qui est aussi un média et non pas le bonhomme à bicyclette. Merci beaucoup, bonne soirée.
Les Afterwork Curieux.
Vous voulez pas un morceau ?
Non, merci.
Mais si.
Mais je vous assure.
Une fois par mois, Curieux accueille des intervenants de tout horizon pour débattre et échanger avec vous sur un thème qui mêle science et vie quotidienne.
Avec la collaboration bénévole
de Récréascience, L'Homme en Bleu et la radio Bob FM.